Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue sur Salut ça va, by Take Care, le podcast qui booste tes ambitions. Toutes les deux semaines, on se retrouve pour explorer les clés de l'équilibre entre vie pro et vie perso, te donnant tout ce qu'il faut pour naviguer dans l'univers entrepreneurial avec confiance et sérénité. Envie d'aller plus loin? Rejoins-nous sur takecare.co pour découvrir nos coachings personnalisés. Bonne écoute!
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast Salut ça va, comme un lundi sur deux. J'espère que vous avez passé un bon week-end, si jamais vous m'écoutez en sortie d'épisode dès le lundi matin. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'échecs, j'avais envie de vous parler d'erreurs, de tout ce qui a foiré dans mon parcours entrepreneurial, parce que ça m'a permis aussi d'apprendre, parce qu'on apprend de ces échecs, de ces erreurs, et comment est-ce qu'aujourd'hui je fais pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Parce que ça par contre c'est quand même un truc qui est assez sympa, c'est de pouvoir non seulement apprendre de ses erreurs mais en plus ne pas les reproduire pour éviter que ça se représente, parce que même si les erreurs peuvent être très pédagogiques et pleines d'apprentissage, c'est vrai que c'est jamais sympa quand on traverse ces moments, et parfois la prise de risque se solde par quelque chose d'un peu moins bien que ce dont on avait peut-être rêvé, mais c'est ok et ça fait partie du chemin. Donc j'avais envie de vous parler peut-être de façon chronologique un petit peu, j'ai sûrement beaucoup plus d'erreurs et d'échecs que ça à mon actif. Je vous ai sélectionné ceux qui me paraissaient les plus pertinents et ceux dont je me souviens le plus, parce que je pense que inconsciemment c'est ceux qui m'ont marqué peut-être le plus, et je vais repartir bien des années en arrière. J'étais vraiment uniquement sur les réseaux à l'époque, j'avais pas de side project et j'étais pas dans mes aventures entrepreneuriales d'e-commerce ou même que ce soit produit ou coaching ou accompagnement, etc. Pas du tout, c'était loin de moi, ça venait juste de commencer au niveau professionnel sur les réseaux. On avait encore du mal à considérer ça comme un métier, et donc j'avais 14, 15, 16 ans je pense, pas plus, et je me retrouvais sur YouTube de façon très très régulière sur plein de formats différents. Et à l'époque il y avait des chaînes YouTube de médias qui étaient gérées par des médias plus traditionnels mais qui avaient envie de se diversifier et qui avaient bien compris que YouTube c'était une nouvelle porte de communication, et que les influenceurs, qui à l'époque s'appelaient pas du tout influenceurs, on appelait ça des YouTubeurs, que les YouTubeurs était une nouvelle façon de communiquer, de pouvoir ramener un public différent sur des formats un peu plus amateurs mais avec plus de proximité, etc., etc. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de productions qui se sont intéressées à ce phénomène et qui nous ont ramené sur des chaînes plus structurées, avec de la pub, avec vraiment le côté traditionnel des médias qu'on pouvait connaître à la télé, sur internet, sur des magazines, etc. Et donc j'avais été approchée par un de ces médias-là qui avait décidé de faire des formats un peu originaux avec différents créateurs de contenu, créatrices de contenu, à l'époque c'était très féminin, et moi j'avais été approchée pour un format sur la beauté. C'était assez cool, franchement, c'était la première fois que je tournais avec un vrai caméraman, un preneur de son, c'était assez impressionnant pour la petite gamine qui était dans sa chambre et qui filmait la plupart de ses vidéos avec le caméscope de ses parents. Donc forcément c'était une étape pour moi, et j'étais hyper excitée à l'idée de faire tout ça. Et donc je suis invitée sur ce nouveau format. L'idée c'était de faire une série de plusieurs vidéos, etc. Et au cours de déjeuners qui ponctuaient nos différents tournages, je me retrouve à discuter de façon complètement innocente et naïve des projets, de mes idées, etc. avec donc des membres de la prod, des membres de la marque, etc. Et je parle de mon idée pour mes 100 000 abonnés, puisqu'à l'époque j'avais pas encore 100 000 abonnés sur YouTube, donc c'est autant vous dire que ça remonte vraiment. C'est sûr que c'est avant 2013, puisque j'ai eu 100 000 abonnés en octobre 2013, il me semble. Donc ça vous situe un peu mon histoire. Et donc je parle un petit peu de ce que j'ai envie de faire pour ces 100 000 abonnés, à quel point j'ai envie de marquer le coup, que je cherche une idée originale, etc. Et je parle d'une campagne de publicité à laquelle je m'étais intéressée, qui avait fait un carton, genre dans les années, 70, 60, enfin bien avant que je sois née, où une marque s'était permise de jouer sur le côté effeuillage d'une femme, bien évidemment, parce que nous sommes dans un monde patriarcal et le corps des femmes est l'objet marketing préféré de beaucoup de publicitaires, hélas. Je ne sais pas ce que c'était, si c'était une compagnie d'assurance ou j'en sais rien. Bref, en gros, le slogan, c'était une femme qui était sur un panneau de pub en disant « La semaine prochaine, on enlève le haut ». Et la semaine d'après, la campagne de pub changeait avec la jeune femme qui était dénudée du haut en disant « La semaine d'après, on enlève le bas ». Et en gros, la semaine d'après, elle était dénudée, quoi. Et le slogan, c'était le nom de la marque, je ne m'en souviens absolument pas, tient toujours ses promesses. En gros, c'était un truc comme ça. Ça se trouve, je vous le caricature complètement, mais vous comprenez l'idée. Et à la limite, c'est pas très grave si on n'est pas très précis sur cette histoire-là, puisqu'en fait, moi, je m'étais réapproprié cette idée. Alors, non pas des feuillages, parce que j'avais pas envie de me mettre à poil sur mes réseaux, mais je voulais reprendre le concept avec l'équipe de rugby de Sam, qui à l'époque était capitaine d'une équipe de rugby, et bref, il faisait vachement de rugby, etc. Donc, moi, j'étais un peu baignée dedans, parce que si je voulais le voir, en gros, il fallait que j'assiste à ces matchs, hein, soyons clairs. Et donc, je m'étais dit, pourquoi pas utiliser ces mecs en mode, on inverse le truc, vu que moi, j'ai un public très féminin. Bon, j'étais dans ce cliché-là. Bon, bref, c'était une très mauvaise idée. On est bien d'accord avec le recul. Je me dis, mais au secours. Heureusement, finalement, que je ne l'ai pas fait, parce que vous allez comprendre la suite de l'histoire. Mais bref, à l'époque, je pensais que c'était une merveilleuse idée. Et bref, je me retrouve à parler de ça et à expliquer que j'aimerais faire une vidéo avec donc cette équipe de rugby qui annonce que aux 100 000 abonnés, ils enlèvent leur t-shirt, quoi. En gros, c'était un peu l'appât du gain, quoi. Enfin, ça n'avait aucun sens, ça n'avait aucun sens. Mais bref, je parle de ça. Et quelques semaines plus tard, la chaîne en question de la marque, enfin du média qui m'accueillait pour faire ces tournages, etc., atteint les 100 000 abonnés avant moi, donc quelques semaines ou quelques mois avant moi, et je vois apparaître une vidéo sur leur compte sur fond noir avec plein de mecs de couleurs de peau différentes, de morphologies différentes, etc., qui se trémoussent devant la caméra, qui enlèvent leur t-shirt, et il y a marqué aux 200 000 on vous donne leur 06. Et là, genre, je vois ça et je me dis, mais c'est une blague, genre je ne peux pas croire ce que je suis en train de voir. Je sais pas vous dire à quel point, genre, j'ai senti une émotion, un sentiment de trahison, genre vraiment j'avais l'impression d'être trahie, et j'étais hyper jeune, donc en plus moi je connaissais pas du tout les rouages du métier, etc. Et là, ni une ni deux, je crois que j'ai fait un mail ou je sais pas quoi, enfin à l'époque j'étais très énervée, je pense que il faudrait que je retrouve ce mail, ça pourrait être drôle. Mais bref, la personne en question me répond, ah non, pas du tout, c'est une idée qui est née en interne, enfin elle nie complètement cette histoire, alors que je sais clairement, enfin là c'était trop gros, genre c'était vraiment trop gros. Bref, mais tout ça pour vous dire que c'est une erreur. Et l'erreur, c'est pas tellement... Enfin, déjà, c'est d'avoir pensé que cette idée était bonne. Ça, on est bien d'accord. Mais à la limite, bon, elle n'est jamais sortie, heureusement. Mais c'est surtout d'avoir, en fait, parlé de mes projets avant qu'ils soient réalisables. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends à ne plus faire. C'est-à-dire que je ne parle pas de mes idées avant qu'elles soient réalisables. Pas dans le sens où je ne parle pas de mes idées, parce que vous voyez, par exemple, sur mes réseaux, en ce moment, je parle de l'idée que j'ai de sortir un sac de course qui soit beaucoup plus pratique, sympa, réutilisable, etc. Bon, bref, et ça a eu beaucoup d'engouement. Et j'ai eu beaucoup de bonnes idées de la part de la communauté, etc. Donc c'était hyper intéressant. Mais parce que je sais qu'aujourd'hui j'ai les moyens de le faire. Je sais que là le sac il est déjà en prototypage. Je sais que j'ai les moyens de ce que j'avance en fait. Alors qu'à l'époque, en fait, je savais que c'était pas réalisable déjà parce que j'avais pas encore 100 000 abonnés, donc ça n'avait aucun sens. Mais en plus de ça, j'avais pas tellement de prod. Enfin, j'aurais fait ça de façon complètement amateur. J'avais pas les moyens en fait de ce que j'avançais en termes d'idées. Et donc le fait de parler de mes idées, surtout à des personnes qui sont clairement inconnues, et même si elles étaient très sympathiques. De prime abord, il y a le côté business qui rentre en jeu, tu vois, et je le comprends aujourd'hui avec le recul, et je leur en veux pas du tout et tout, je me souviens même plus de qui c'était, donc voilà, c'est juste pour l'anecdote que je vous raconte ça, mais c'est vrai que à l'époque, je pense que j'avais pas mesuré à quel point, même si on peut avoir des relations cordiales, même si on peut s'apprécier, il y a quand même en fait un fond de business. Alors bien sûr, moi je considère qu'il y a quand même des valeurs à avoir, et je sais que c'est quelque chose que personnellement je ne ferais pas. Enfin, je veux dire, si quelqu'un me confie aujourd'hui une idée, jamais je me dirais, je vais tout faire pour arriver la première et aller au bout de cette idée avant eux. Ça, c'est, on va dire, une question de valeur et d'éducation, mais c'est un autre sujet. Mais toujours est-il que l'erreur que j'ai faite, la responsabilité que je prends dans cette histoire, c'est de me dire, en fait, je n'avais pas les moyens de ce que j'avançais. Donc, c'est-à-dire, je parlais beaucoup, mais je n'avais pas les moyens de faire et de mettre en place tout ça derrière. Donc, vraiment, maintenant, j'ai toujours en tête ce truc de me dire, avant de pouvoir parler d'une idée et en parler avec n'importe qui, essaye de te demander si tu as vraiment les moyens de mettre en place passe, tes idées, est-ce que tu avances, est-ce que ça va t'apporter quelque chose d'en parler à ces personnes, est-ce que tu attends quelque chose de leur part, c'est-à-dire une validation, une idée, un avis, etc. Ou est-ce que c'est juste parler pour parler et quelque part ça va venir diluer un peu ton idée, donc c'est pas nécessaire. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment appris avec le temps dans l'entrepreneuriat, c'est de me dire recentre-toi et ne sois pas toujours pressé de vouloir parler des idées, de vouloir discuter, débattre, avoir l'avis de tout le monde, etc. Parce que ça peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire ça peut vous faire douter, ça peut diluer vos idées, ça peut faire en sorte que ben, vous ayez davantage de bâtons dans les roues, clairement. Je suis pas en train de vous dire de vous renfermer et tout, je pense que vraiment le réseau entrepreneurial, etc., c'est hyper important, mais choisissez les personnes avec qui vous parlez de vos projets et posez-vous la question de savoir, ok, si demain cette même personne elle a la même idée que moi au même moment, est-ce que le fait d'avoir vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ça va pas me porter préjudice en gros. Je sais que vous aimez mes petites expressions françaises. Non mais c'est tout ça pour vous dire que en fait c'est important de se dire qu'il y a des personnes avec qui vous pouvez partager parce que vous savez qu'elles sont dans une énergie de croissance et de vous porter, etc. Et il y a des personnes, souvent même des personnes que vous connaissez, hein, c'est pas forcément des inconnus comme moi c'était le cas pour moi, clairement je ne connaissais pas vraiment ces personnes, mais même auprès de personnes que vous connaissez, etc., posez-vous la question de savoir qu'est-ce que ça va générer chez eux aussi, cette idée, sans être dans l'angoisse et dans l'anticipation permanente et dans la méfiance permanente, mais je pense réellement qu'il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on partage ces idées et est-ce qu'on a les moyens de les mettre en place avant d'en parler partout autour de nous et de faire beaucoup de bruit. Voilà, ça c'est une des premières choses que j'ai appris et que je garde maintenant bien en tête. Beaucoup plus loin dans mon aventure entrepreneuriale, quand j'ai commencé Cracotte et Pyjama, j'ai fait beaucoup d'erreurs sur la création de marque parce que je n'avais jamais fait ça. J'avais jamais créé de marque. J'avais déjà créé un produit avec mon livre. Ça s'était plutôt très très bien passé. Mais c'est différent parce que c'est un produit unique, c'est un marché de niche très particulier. On était dans une période où c'était vraiment très commun que les youtubeurs sortent leurs livres. Donc il y avait un engouement naturel, etc. J'avais pas besoin de créer une marque derrière pour vendre mon produit. Ça s'est plutôt très très bien vendu d'ailleurs. C'était assez hallucinant cette histoire. Et donc je me suis retrouvée en fait avec beaucoup de trésorerie parce que le livre a bien marché. Et en fait, je me suis pratiquement rien... Mais je crois que... Mais même pas un euro, je crois. J'ai pas sorti un euro de la boîte pour moi. Je me suis dit, je vais tout réinvestir. Je vais tout réinvestir dans un autre projet. Et en fait, mon idée, c'était, je veux faire du business. Mais il n'y avait pas réellement de squelette à mon projet. Et ça, c'est une erreur que je vois de façon très courante. Des personnes qui se disent, ah ben moi, je veux être à mon compte, je veux être indépendant. Mais qui n'ont absolument pas idée de ce qu'elles veulent transmettre, quelles sont les valeurs qu'elles veulent incarner à travers leur business. Où est-ce qu'elles voient leur business dans 3, 5, 10 ans. C'est-à-dire être à son compte pour être à son compte ou avoir sa marque pour avoir sa marque. Ça s'essouffle au bout d'un moment. Et il y a vraiment nécessité d'avoir un squelette solide de ce qu'est votre marque, de là où vous souhaitez l'emmener, de la vision que vous lui accordez et vraiment de la structure en fait qui va venir soutenir toutes ces idées-là et pas seulement juste vous dire j'ai envie de faire une marque, pour faire une marque ça va marcher, peu importe ce que je vends, j'ai juste envie d'être à mon compte, etc. Parce qu'au bout d'un moment ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire soit vous décidez de faire clairement de la thune pour de la thune et ça a marché un temps, on l'a vu avec le dropshipping où il n'y avait pas vraiment de création de marque, création de valeur, etc. Mais ça s'essouffle, enfin je veux dire le dropshipping aujourd'hui c'est plus du tout un modèle de business qu'on considère comme être pérenne, durable, et on ne sait pas du tout ce que ça va donner dans 5, 10, 20 ans. Donc quand on lance son projet, et à l'époque...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Moi, j'avais pas du tout cette vision-là, et c'est justement aujourd'hui ce que j'essaye de transmettre le plus à travers notamment le prochain coaching qui sort sur Takecare, le coaching essentiel. Je parle pas vraiment de comment monter sa boutique Shopify, comment acheter, revendre, machin, etc. Le côté juridique, le côté structure de la boîte, les impôts, les trucs. Ok, c'est important, et j'en parle à travers des outils, à travers des ressources, etc. Mais les fondamentaux pour durer, c'est de savoir concrètement qu'est-ce que vous voulez faire avec votre marque, qu'est-ce qu'elle dit, pourquoi, c'est quoi, quelle est la mission de votre marque derrière. Pourquoi est-ce que chaque matin vous allez vous lever pour bosser et pour donner vie à vos projets, à vos idées et continuer même quand ça va être dur, quand il va y avoir des moments de doute, des moments de flottement, des coups de mou, etc. Quelle est la mission, quelle est la raison d'être de votre projet? Et c'était pas du tout le cas quand j'ai lancé Cracoté Pyjama. À l'époque, j'avais juste envie non pas de faire de la thune, hein, pas du tout, parce que en fait, si j'avais voulu faire de la thune, j'aurais gardé la trésor que j'avais sorti de mon livre et j'en aurais profité pour faire des investissements extérieurs, etc. Non, là, j'étais vraiment dans ce truc de me dire ah, mais je veux entreprendre pour entreprendre, je veux continuer à entreprendre, je veux faire des objets, etc. Je veux envoyer des produits. Enfin, je sais pas, il y avait ce côté un peu, je sais pas, boutique, marchande, rêve de gosse, j'en sais rien. Mais il n'y avait pas vraiment de réelle stratégie et cette question de se dire pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as envie de le faire? Pourquoi est-ce que tu vas sortir ce produit, etc. Et donc, je me suis retrouvée à vendre, enfin, et à acheter surtout, beaucoup trop d'exemplaires pour la cible que je visais. J'avais pas vraiment de valeur ajoutée dans les produits que je présentais. Et en fait, je me suis retrouvée avec un stock sur les bras énorme de produits, de milliers de produits. Et concrètement, j'ai perdu beaucoup d'argent et de temps sur des produits qui ne fonctionnaient pas. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et jamais je recommencerai de cette façon-là, en mettant clairement la charrue avant les bœufs, hein, pour continuer sur nos petites expressions françaises, n'est-ce pas? Mais clairement, c'était ça. J'avais envie de vendre un produit avant même de savoir pourquoi est-ce que concrètement j'étais en train de dédier du temps et de l'énergie à la création de cette marque qui en fait n'avait pas d'identité, n'avait pas de valeur, ça n'avait aucun sens. Et donc vraiment, c'est une erreur que je vois de plus en plus, surtout avec ce côté tendance du small business, où on a l'impression que c'est vrai, aujourd'hui, du jour au lendemain, vous pouvez être un small business. Je veux dire, il n'a jamais été aussi facile d'atteindre des fournisseurs, d'ouvrir un site internet, de se faire connaître sur les réseaux, etc. Mais entre le moment où vous créez le small business et le moment où vous arrivez à vous projeter à 5-10 ans sur la création d'une marque avec ses valeurs, avec une communauté, avec une clientèle fidèle, etc., etc., il y a un monde. Et ce monde, il passe par la structuration, par le squelette, par vraiment le travail du corps du projet et de ce fil rouge qui va devoir vous suivre au fur et à mesure de votre expansion, votre croissance, etc. Donc vraiment, erreur que je ne veux plus faire et que je ne referai plus. Et ce pourquoi je travaille sur TakeCare aussi, à vous transmettre tout ça, c'est vraiment de se poser concrètement sur le pourquoi du comment et le pourquoi des choses et le pourquoi des actions qu'on entreprend. Et c'est hyper important. Ensuite, on continue dans les erreurs qui sont arrivées après tout ça. Une fois que j'avais créé mes marques, que Cracotte avait pris un peu du poil de la bête, n'est-ce pas? Mais vraiment, ces expressions françaises, c'est trop, on dirait que je suis sponsorisée par l'Académie de France. Pas du tout l'Académie de France. L'Académie française, bien sûr. Non, pas du tout. Mais écoutez, le poil de la bête, ça fait penser au petit chat et la mascotte de Cracotte, c'est un chat. Donc ça fait sens, voilà. Cracotte a subi pas mal de changements de lignes directrices, de modèles au niveau business, etc. Et aujourd'hui, on arrive à un modèle qui est serein et qui fonctionne très bien. Mais c'est vrai que il y a un truc sur lequel j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés et j'ai fait des erreurs énormes et pour lesquelles je suis totalement responsable, c'est le recrutement dans l'urgence. J'ai eu des moments de panique en fait, avec des moments où Cracotte avait des grosses périodes d'activité en fait, et je me suis dit mais là on va pas y arriver, il faut recruter. Et donc j'ai pris le truc à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de me demander quel type de personne pourrait aussi matcher avec la marque, avec la vision, avec les valeurs de la boîte, quel type de personnalité on avait besoin pour soutenir les projets, etc., je suis allée aux besoins, c'est-à-dire basiques de « Oh, tiens, on a une activité qui augmente, on va recruter quelqu'un ». Mais je ne suis pas allée assez loin dans l'investigation du type de personne dont j'avais besoin et surtout de m'assurer que ces personnes matchaient avec le profil du business, quoi, de Cracotte, et de la vision et de notre fonctionnement de start-up, même si ce mot me donne des frissons. Mais vous comprenez l'idée, on était une petite boîte en cours de structuration et j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là parce que je me suis retrouvée avec des personnes qui n'étaient pas faites pour notre modèle de travail, qui sortaient de boîtes qui étaient très structurées, avec un N+1, un N-1, une hiérarchie, etc. Et moi, je suis tellement pas dans ce truc-là, j'ai vraiment pas du tout de qualité en termes de management, parce que j'aimerais que tout le monde puisse être libre et autonome, sauf que ça fonctionne pas. Et donc j'ai fait des erreurs de recrutement avec du temps perdu, parce que forcément, même s'il y a des périodes d'essai, que vous mettez fin aux périodes d'essai, etc., ça bouscule quand même une boîte, surtout quand vous êtes une petite équipe, etc., l'arrivée d'une nouvelle personne, l'intégration de cette personne, etc. Donc ça, c'est un truc vraiment sur lequel j'ai merdé. Et j'ai aussi merdé sur même la suite, avec les équipes, etc., par manque de clarté. J'ai eu des moments où j'étais pas vraiment clair dans mes demandes, dans mes attentes, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fonctionne beaucoup mieux avec des prestataires extérieurs, parce que je me rends compte qu'en fait, ma façon de travailler à moi, elle est trop intuitive pour structurer une boîte avec des grosses équipes, etc. Il aurait fallu à un moment donné, et la question s'est posée, mais j'ai pas du tout eu envie, il aurait fallu à un moment donné faire rentrer quelqu'un, ça se fait hein, dans pas mal de boîtes, qui prend la structure en main, le côté équipe, le côté management, le côté hiérarchie, etc. Et en fait, j'avais pas du tout envie de rentrer là-dedans, donc j'ai préféré à un moment donné me séparer de certaines personnes, et certaines personnes aussi avaient besoin de liberté, avaient besoin d'autre chose, avaient fait leur temps à nos côtés, etc. Et on s'est pas du tout quitté en mauvais termes, hein, au contraire, mais je sentais qu'en fait, au niveau de ma capacité à manager et au niveau de ma vision aussi, de ce qu'était une équipe, de ce qu'était une entreprise, de nos fonctionnements internes, etc., je sentais qu'il y avait une dissonance par rapport à moi, mon rythme de travail, par rapport à ma nécessité au niveau de mon bien-être et la nécessité de trouver du temps aussi pour moi, etc. Et c'était incompatible en fait avec la présence qui est nécessaire dans une boîte qui commence à avoir plusieurs personnes, qui commence à avoir des équipes, etc. Donc ouais, je pense que de ce côté-là, j'ai fait des erreurs, j'en suis certaine même, et j'en prends l'entière responsabilité, mais on apprend, et ça a été un réel apprentissage, parce que quand on touche à l'humain, forcément, non seulement ça nous fait apprendre au niveau de la technique, au niveau des process, au niveau du côté structurel, etc., mais aussi sur nous-mêmes, en fait. Et j'ai beaucoup appris sur moi sur ces dernières années, et à travers ces erreurs-là, et aujourd'hui, je pense que le fait de faire différemment, le fait d'avoir beaucoup de prestataires extérieurs, etc., avec qui ça se passe très très bien, ça me rassure dans ma capacité à me dire qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul modèle de réussite d'entreprise, et c'est pas parce qu'on n'est pas 60 en interne qu'en fait, la boîte, elle tourne pas. Au contraire, elle a jamais aussi bien fonctionné, et c'est ok, en fait. Il faut sortir de ce côté-là, réunionite aiguë, grand bureau avec tout le monde en présentiel dans son bureau, les open space et compagnie, quoi, la machine à café et le tralala. Non, mais c'est vrai qu'on a vachement ce modèle-là, et en fait, moi, je me suis autorisée à me dire, ça me convient pas. Nous, on est 3 jours par semaine au bureau maximum, on est en semaine de 4 jours, le mercredi, il y a personne, moi, le vendredi, je bosse toute seule de chez moi, en pyjama, sur mon lit, et c'est ok, en fait, ça fait pas de moi une entrepreneuse qui a moins réussi qu'une autre, et juste, j'essaie de m'adapter à mon fonctionnement, et de pas faire subir aussi mon fonctionnement à d'autres personnes, et de prendre plutôt des personnes qui matchent avec ça, quoi. Et voilà, et d'y apporter de la clarté, et surtout de la précision dans ce que je suis, dans ce que j'attends, et ça marche beaucoup mieux comme ça. Donc ouais, ça a été une erreur pour laquelle j'ai beaucoup évolué, et j'ai beaucoup appris, et que je remercie quelque part. Et enfin, je vais terminer là-dessus, je pense que c'est l'erreur la plus récente, voilà, qui s'est passée à l'intérieur de nos boîtes, de nos différentes structures, c'est le fait de fuir ce qui me fait flipper au niveau administratif. Je pense que c'est vraiment un truc sur lequel, j'y travaille, hein, je vous assure, j'essaie de ne plus fuir, de ne plus éviter, mais en fait, c'est-à-dire que quand ça me fait peur, c'est-à-dire que moi, j'ai des angoisses par rapport aux capacités financières, alors que je n'ai jamais eu de problème, hein, j'ai toujours réussi à payer tout le monde en temps et en heure, la boîte est en croissance, etc. Mais clairement, c'est une angoisse de me dire qu'il y a de la responsabilité sur mes épaules par rapport à des personnes qui dépendent de moi pour vivre. Et donc, c'est pour ça aussi que ce côté grosses équipes et tout, ça pouvait pas fonctionner, parce que même si ça allait très bien et que tout le monde a été payé en temps et en heure, et que, j'ai versé des primes dès que je pouvais, et que voilà, la boîte tournait, quoi. Enfin, je veux dire, ça allait bien. Mais en fait, j'avais tellement cette angoisse-là que dès qu'il y avait un changement de niveau administratif, dès qu'il y avait une question genre de mon comptable, en mode, ah tiens, il faudrait qu'on fasse un petit bilan là-dessus, etc., j'étais paniquée. Et donc, je mettais ça sous mon lit, tu vois, vraiment genre dans un tiroir, sous le tapis, en mode, je veux pas le voir. Et je laissais le truc monter, jusqu'à ce que ça prenne tellement de place qu'on ait plus le choix de s'y mettre. Sauf que forcément, ça s'accumule, que la dose de stress s'accumule. Et c'est le principe même de la procrastination. Et j'aurai l'occasion de faire un épisode peut-être là-dessus, parce que ça, c'est un truc récurrent que je vois de plus en plus avec les femmes que j'accompagne, etc. C'est vraiment ce truc de la procrastination qui amène l'anxiété. Et plus on repousse la tâche, plus l'anxiété monte et plus on évite de le faire, etc. etc. Et ça a été le cas pour moi de ce point de vue-là, administrativement parlant. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ma mère qui est en free et qui a des missions dans l'entreprise de façon ponctuelle pour m'aider sur toute cette partie-là. Parce que j'ai accepté que juste, c'était pas mon truc. Mais en fait, faut pas le fuir. Faut à un moment donné déléguer pour que d'autres personnes puissent s'en charger, et aussi prendre les responsabilités quand on a besoin d'y mettre le nez dedans, quoi. Je veux dire, il y a des moments de l'année où j'ai besoin aussi de me confronter à ça. Et donc voilà, ça a été une erreur parce que ça m'a fait vraiment galérer en termes de structuration, de finances, etc. Enfin, ça a été très compliqué de ne pas avoir de visibilité là-dessus. Tout ça parce que clairement, je ne voulais pas voir la vérité en face. Voilà, donc moralité de l'histoire, entourez-vous, comptable, juridique, administratif, au niveau de même du secrétariat, etc. Si vous commencez à accumuler les papiers, les trucs et tout, ne mettez pas ça sous le tapis, parce parce que de toute façon, un jour ou l'autre, ça va ressortir. Et c'est au pire moment que ça ressort, parce que en fait, l'anxiété s'accumule, parce que le stress s'accumule, parce que vous ne voyez pas le bout du tunnel tellement les tâches se sont accumulées et vous vous retrouvez complètement surmené, submergé par tout ça. Donc, c'est pas une solution. Donc, vraiment, on essaie de décortiquer petit à petit, de déléguer au maximum et de se mettre des temps où on se confronte en fait à ça. Et c'est pas si terrible. Genre, ça peut aussi bien se passer. Et au final, nous, ça s'est hyper bien passé. Ça nous a pris la tête pendant 3-4 mois. J'étais dans un état, mais terrible. C'est ce qui m'a même amené à aller en thérapie, notamment l'année dernière, quand j'ai suivi ma thérapie avec ma psy, parce qu'en fait, je me disais, mais c'est pas normal de se laisser surmener à ce point par des trucs aussi futiles, parce que bah, ça reste de l'administratif, du matériel. Enfin, je veux dire, ce n'est pas grave en soi, mais clairement, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos que j'avais mis de côté pendant trop longtemps, qui me revenaient à la gueule, quoi. Hein, il faut le dire, voilà, comme un boomerang, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, bah, les choses sont beaucoup mieux structurées, j'ai gagné en clarté, j'ai simplifié mes process, et je me dis, mais tout ça pour ça, au final, bah, si j'avais fait ça il y a quelques années, j'aurais beaucoup moins galéré. Donc voilà, c'est la petite leçon, et je vais terminer là-dessus. J'espère que ce partage d'expérience vous aura peut-être décomplexé, déculpabilisé sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Si jamais vous êtes en création de projet, j'espère que vous ne ferez pas peut-être les mêmes erreurs que moi, ou peut-être que ça vous aura apporté quelques clés pour être vigilant par rapport à certaines choses. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez envie que je vous accompagne sur la création de votre projet, à rejoindre le prochain coaching de Take Care qui sort très bientôt, courant du mois d'avril. Voilà, je vous spoil, mais ça arrive très bientôt. Il y a un formulaire de pré-inscription pour être prévenu avant tout le monde. Voilà, si jamais ça vous intéresse, sur takecare.co. Et puis, bon, dans tous les cas, je vous retrouve très bientôt ici sur le podcast et ailleurs sur les réseaux. Prenez bien soin de vous et à très vite. Je vous embrasse.
Un grand merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et n'oubliez pas, si vous voulez aller encore plus loin, nos coachings en ligne vous attendent sur takecare.co. Prenez soin de vous. À très vite.